Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun chacune, vous écoutez Radio BLV, c'est La Locale, votre rendez-vous quotidien du mardi au jeudi de rencontres et d'infos du territoire. Et c'est Sylvie et Karina au micro, avec aujourd'hui en plus Anna. Bonjour Karina.
Bonjour.
Bonjour Anna.
Bonjour.
Anna qui est... on va te laisser te présenter.
Bonjour, je m'appelle Anna, je suis en stage de 3e. À Radio BLV et je suis très contente d'être ici.
Super, bon voilà, comme vous l'entendez, on ne maltraite personne. Alors Karina, au sommaire de cette locale du mardi 26 janvier.
Alors, au sommaire, on va parler d'abord télétravail et droit du travail. On fera le point avec Arnaud Pichot, secrétaire général FO Drôme Ardèche, au téléphone avec nous. On parlera ensuite avec Isaac Bonaz, musicien-compositeur, du concert sauvage de samedi dernier et d'une lettre au gouvernement. Et pour finir, nous aurons au téléphone René Cartenier de l'association Les Pléiades, qu'on entend déjà régulièrement sur notre radio et qui nous parlera d'astronomie.
Absolument. Alors, on commence effectivement avec Arnaud Pichot, secrétaire général FO Drôme Ardèche. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors Arnaud, on met en place deuxième rendez-vous de ces rendez-vous réguliers autour du droit du travail au sens le plus large possible. Avec les rumeurs de reconfinement, le télétravail est plus que jamais à l'ordre du jour. Donc faisons un petit point ensemble sur ce télétravail et peut-être avant tout, quelles sont les obligations de l'employeur en matière de matériel par exemple et d'accès à Internet, les outils de travail à mettre à disposition pour un salarié pour le télétravail.
D'accord. Donc déjà, oui, par rapport au confinement, mais il faut savoir que quand même par rapport au télétravail, à la base, quand on dit obligatoire, il n'est pas obligatoire pour tout le monde. Le travail il est obligatoire que pour un salarié qui peut accomplir l'ensemble de ses tâches à distance.
Bien sûr.
Il veut dire ce que ça veut dire. Non, mais c'est très important. Ça veut dire que on croit que il n'est pas obligatoire en tant que tel. Voilà. Donc, du coup, qui dit accomplir l'ensemble de ses tâches? Et ben, quand vous demandez qu'est-ce qu'il faut pour le salarié, il faut qu'il puisse travailler comme s'il était au bureau, dans les mêmes conditions de travail. Donc, surtout si c'est du matériel informatique, il doit être mis à disposition de bureautique, on va dire. Je dirais, voilà. Après, c'est vrai qu'une table, non, parce que, voilà, malheureusement, mais... Et puis, il faut que le salarié puisse aussi avoir un coin chez lui. Je veux dire, quand on est dans un appartement de 40 mètres carrés, et qu'on n'a qu'une pièce principale et que tout le monde est dans la pièce principale, le salarié peut en faire part auprès de son employeur et à ce moment-là, refuser le télétravail parce qu'il n'a pas les conditions pour accomplir l'ensemble de ses tâches à distance. Et donc, il peut quand même le refuser et c'est pas, il risque pas le licenciement par rapport à ça.
D'accord. Et d'ailleurs, s'il le refuse, mais quand on est en période comme en ce moment, où admettons qu'il y ait un reconfinement, qu'il y ait effectivement l'obligation donc de soit du télétravail, soit du chômage partiel, on peut dire ben non, moi je ne peux pas, les conditions sont pas requises pour que je puisse assurer le télétravail correctement, et donc je demande à être en chômage partiel. Comment ça se passe?
Dans tous les cas, pour le télétravail, il faut savoir qu'il faut un accord entre l'employeur et le salarié, par tout moyen, on dit. Oral, courrier, courriel. Donc nous, on conseille un minima un mail, pour cet accord déjà, de mise en place, ou un courrier. Évitons les accords oraux, parce que le problème est que si demain, le salarié, pour des raisons X, Y, souhaite aller au, au, aidant parce qu'il considère qu'il n'a pas tous les moyens pour travailler. S'il n'a qu'un accord oral, ça va être compliqué. Donc, on rappelle que c'est très important. Après, si le salarié ne peut pas télétravailler et qu'il n'y a pas les moyens, que l'employeur ne met pas les moyens, c'est à l'employeur de le laisser venir à la, sur place, on va
bien
dire.
Bien sûr, d'accord.
C'est la première des choses. Et il revient, il vient sur place. Et tant qu'il n'y a pas cet accord entre l'employeur et le salarié, il faut bien le dire, le salarié vient travailler, normalement, on va dire, entre guillemets. Alors là, il peut y avoir des adaptations de plage horaire pour pas que tout le monde se croise. Il y a des conditions aussi dans le bureau, voilà. Après, si ça pose un vrai problème, bah, c'est à l'employeur de le mettre au chômage partiel.
D'accord. En télétravail, comment on organise son temps de travail? Est-ce qu'on a les mêmes horaires qu'en présentiel, comme on dit, ce si vilain mot, ou est-ce qu'on a la possibilité d'organiser son temps de travail de façon un peu plus libre?
Alors, il y a double question dans ce que vous venez de me demander. La première réponse, c'est que le salarié effectue le même temps de travail qu'en entreprise. Donc, s'il fait 8 heures par jour, il doit faire 8 heures de télétravail. S'il en fait 9 dans la journée, il a une heure qui est payée en heure supplémentaire. Il a exactement les mêmes droits que s'il était dans son entreprise. Donc, que ce soit pour les heures supplémentaires, que ce soit pour le repos entre midi et deux, que ce soit le ticket restaurant, il y en a qui ont des tickets restaurants, ben, s'il est mis en place dans l'entreprise, ben, le salarié y a droit. Après, il doit être joignable aux heures de travail et quand même respecter une pause de 11 heures entre chaque période de travail. C'est-à-dire entre lundi et le mardi. Quand il arrête le lundi soir, il faut qu'il y ait 11 heures de repos avant de reprendre le mardi matin. Donc après, comme je vous ai dit, c'est un accord entre l'employeur et le salarié qui doit être par tout moyen, mais au moins nous, on conseille par courriel. Il peut être aménagé des horaires. C'est pas un souci, mais c'est écrit noir sur blanc. Mais par contre, c'est des horaires aménagés et respectés. C'est-à-dire que si c'était, je prends un exemple, 8h midi, 13h30, 17h, et qu'ils veulent faire 8h, 10h, et puis, je sais pas, 14h, 19h, je sais pas si ça correspond au nombre d'heures, c'est pour donner un exemple, que ça soit écrit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le salarié a exactement les mêmes droits, mais
les mêmes devoirs aussi. Bien sûr,
c'est-à-dire qu'au niveau accident du travail, il faut qu'il puisse justifier qu'il était au travail au moment de l'accident de travail. Bien Donc sûr. Dans mon exemple, si ce n'est pas écrit et qu'il finit à 19h alors qu'il devait finir à 17h et que c'est écrit nulle part, il va déclarer un accident de travail, ça peut arriver à la maison quand même aussi, et du coup l'employeur peut dire ah ben non, j'étais pas au courant, et du coup ça ne sera plus un accident de travail, donc il y a danger. Donc il faut que tout soit écrit, c'est ça qui est important.
Alors c'est vrai que la notion d'accident du travail, elle ne doit pas être facile quand même, là pour le coup, quand on est en télétravail. J'imagine que qu'il doit y avoir de nombreux cas un peu particuliers. Les vérifications de la part de l'employeur. Alors je dis ça parce qu'on a eu des témoignages de salariés qui faisaient état de mails envoyés par l'employeur à midi ou à 18h pile avec demande de réponse immédiate, par exemple. Quels sont nos droits face à ça?
Alors l'employeur ne peut pas se servir de l'ordinateur et de dire, c'est ce que quand vous dites dans les abus qui est arrivé, la souris n'a pas bougé depuis 20 minutes, donc à partir de là, je t'appelle parce que je n'étais pas en train de travailler. Après, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pareil, les modalités du contrôle du temps de travail, il faut que ça soit écrit dans l'accord, dans cet accord simple. Je veux dire, ce qui pose vraiment problème, et quand vous dites qu'il y a des... C'est souvent de fois, les salariés souhaitent être en télétravail parce que pour le Covid ou pour des raisons personnelles, mais tout se fait oralement.
Oui.
Et à partir de là...
Il n'y a pas de cadre.
Et ben voilà, il n'y a plus de cadre. Et après, il se passe tout et n'importe quoi. Or là, il y a des horaires. C'est vrai que l'obligation du salarié, c'est d'être joignable pendant ses heures de travail. Donc si je dirais, si l'employeur l'appelle à 9h30... qui démarre à 8h, dans mon exemple de 8h midi tout à l'heure, il appelle à 9h30, même si c'est que pour vérifier s'il est joignable, je dirais rien ne l'en empêche.
Bien sûr, oui, il est dans son droit, oui, on est d'accord.
Mais c'est important, ce que j'insiste un peu, c'est qu'il faut bien qu'il soit dans les horaires de travail, donc il faut bien qu'il soit bien défini les horaires de travail. En dehors des horaires de travail, le salarié doit déconnecter. Il doit faire comme s'il était au bureau, il ne doit pas rallumer son ordinateur ou regarder son téléphone portable pour regarder les mails.
Oui, ça c'est assez difficile en télétravail, hein, justement de couper finalement.
Oui, mais les études qui montrent que les salariés travaillent plus longtemps et du coup ne se font pas payer les heures supplémentaires comme je parlais tout à l'heure. Donc ça, l'étude le montre. Mmh. Mais elle montre aussi qu'il y a quand même 40%, plus de 40% de salariés qui sont en mal-être au travail. Hein. Il faut aussi en parler de ça quand même avec l'isolement.
Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai qu'on entend beaucoup hein, de gens qui disent mais on voudrait au moins avoir une journée par semaine au bureau pour retrouver cette vie sociale qui nous... Enfin, voilà, c'est très très important aussi hein, de ne pas être trop isolé. Le CDD travail temporaire, tu voulais absolument pointer sur le sujet.
Oui, parce que du coup, c'était surtout pour prévenir les salariés, quand j'y prévenir, des petites entreprises, comme on avait parlé là, il y a 15 jours, hein, des TPE qui n'ont pas de représentants du personnel, qui ne savent pas comment se renseigner et qui ne savent pas tout. Il faut savoir que jusqu'au 31 juin 2021, il y a la dérogation qui existait aux règles obligatoires des contrats à durée déterminée au travail temporaire sont reconduites jusqu'au 30 juin 2021. C'est quoi ces dérogations? Elles visent surtout le nombre maximum de renouvellement des contrats et le délai de carence. C'est-à-dire qu'il y a, pour un CDD, on disait toujours que c'était 18 mois et 3 contrats maximal. Ben là, maximal. Donc du coup, là, c'est pas du tout le cas. Jusqu'au 30 juin, les salariés peuvent se retrouver avec plus de contrats, de renouvellement de contrats. C'est-à-dire qu'ils peuvent en avoir 4, 5, 6. Et pour le travail temporaire, c'est exactement la même chose. Et le délai de carence ne rentre pas trop en vigueur. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais ils peuvent être repris plus rapidement. Voilà, il faut qu'ils le sachent, parce que ceux qui ne pensent pas, tiens, j'ai eu mes trois, surtout en CDD, j'ai eu mes trois contrats, il est obligé de m'embaucher en CDI. Ça, c'était avant le Covid, on va dire, et tant qu'il y a la crise. Maintenant qu'il y a la crise et le Covid, malheureusement, ils ne peuvent pas jouer là-dessus.
D'accord. Donc ça, effectivement, c'était important de le souligner. Je crois que tu voulais faire un petit point aussi sur les congés payés.
Oui, si les salariés s'en rappellent, le gouvernement avait mis en place la possibilité à l'employeur de prendre 6 jours de congé, alors surtout par accord collectif, donc c'est plutôt dans les entreprises où il y a des représentants de CSE, mais du coup, ça devait signer à la fin d'année. Or, ça a été encore là aussi prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Donc du coup, ce qui veut dire que les entreprises, les salariés qui n'ont pas pris tous leurs congés payés, alors c'est un peu technique, hein, vaut mieux qu'ils viennent nous voir en force ouvrière, s'ils veulent avoir plus de précision, et c'est pour dire qu'il a la possibilité d'imposer la prise de 6 jours de congés. Alors c'est par accord collectif, mais c'est quand même pour le dire que c'est ce qu'on appelle nous la prise forcée. Voilà. Et comme l'activité ne repart pas et que c'est compliqué avec ce confinement qui va arriver, il y a peut-être des employeurs qui n'ont pas fait l'année dernière qui risquent de se dire, eh ben, je vais faire un accord pour imposer 6 jours de congé à mes salariés et ça sera pendant le confinement. Voilà.
D'accord. Donc, effectivement, être extrêmement vigilant sur tous ces points. Et puis, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez toujours vous rapprocher de toutes les d'Arnaud Pichot et de FO, comme d'autres syndicats. Ils sont là. Ce sont des structures qui sont là pour vous aider, pour nous aider, nous accompagner.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Arnaud. Et puis, à la prochaine fois. On se retrouvera bientôt.
Merci,
au revoir.
Quelques informations maintenant. Alors, on commence par une bonne nouvelle. Femmes solidaires, donc un message de Femmes solidaires. Le gouvernement a retiré l'appel d'offres autour du 39-19. Donc, Femmes solidaires remercie toutes celles et ceux qui ont signé la pétition ou écrit à des parlementaires. Solidarité Femmes a tweeté « Après 3 mois de bataille, Solidarité Femmes est infiniment soulagée que le gouvernement ait enfin annulé l'appel d'offres autour du 39-19. Les victimes de violences méritent une aide digne de ce nom. » Dans sa déclaration, la directrice générale de la cohésion sociale indique que cette décision résulte du choix de procéder à une redéfinition du mode de gestion des interventions possibles en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et sinon, deuxième nouvelle, beaucoup plus locale cette fois-ci, la nouvelle médiathèque ouvre aujourd'hui, Anna.
Oui, l'inauguration du site de La Tour Maubourg à Valence vient de commencer. Encore quelques heures pour découvrir l'ancienne caserne réhabilitée. La place d'armes accueille la médiathèque centrale de Valence et les archives intercommunales en un même lieu, sur près de 6000 m². L'accès se fait par une esplanade végétalisée. Elle est agrémentée d'un mobilier urbain propice aux échanges, à la détente et à la lecture. La cohabitation de la médiathèque avec l'université Sandal, le Learning Center, l'école d'infirmières, le Pâté et France Bleu Trois-Mardèches devrait insuffler une nouvelle dynamique dans le quartier de La Tour-Maubourg.
Et on parle d'un déménagement particulièrement monumental.
Oui, c'est vrai. Depuis le 1er septembre 2018, les équipes de la médiathèque ont eu à assembler, empiler, inventorier, réétiqueter, porter, conditionner, expédier plus de 400 000 documents, livres, CD et DVD. Un volume estimé à près de 10 000 cartons, puis à remplir les kilomètres de rayonnage de la future médiathèque.
Merci beaucoup, Anna.
Après les médiathèques, on va rester dans la culture. Isaac Bonaz est musicien, compositeur, ingénieur son, auteur. Pour faire court, il est artiste à Valence. Il est aussi à l'initiative d'une lettre ouverte au gouvernement qui rassemble 80 signataires d'acteurs et actrices de la musique d'ici et d'ailleurs et de la culture en général. Depuis un an, les artistes sont empêchés. Qu'est-ce qui a présidé au passage à l'acte en écrivant cette lettre qui est plus qu'un coup de gueule et bien un appel des tripes ?
Ouais, effectivement, c'est quelque chose moi qui me trotte dans les tripes depuis pas mal de mois. On a tous les projets qui ont été mis en stand-by, voire enterrés sur l'année dernière. Et en fait, donc c'est quelque chose que moi j'avais envie d'écrire et de dire depuis longtemps, mais je m'étais jamais vraiment décidé à le faire. Et enfin, le déclic, c'était le 7 janvier. Des annonces ou plutôt des non-annonces de la part du gouvernement sur la réouverture des salles, sur la possibilité de remener nos projets. Mmh. En fait, ces annonces ont pour moi montré qu'on allait continuer alors que tout le monde souhaitait une année 2021 avec plein de projets et du meilleur, etc. En fait, je me suis aperçu que d'un point de vue politique, ce serait dans la lignée de 2020. Mmh. Et donc, on n'était plus du tout dans une situation d'urgence. En mars 2020, on a tous arrêté, on s'est confinés, on a tous respecté parce qu'on était sidérés, puis qu'on s'est dit que le confinement, et si effectivement on arrêtait les concerts, les projets, tout ça, si le confinement était respecté, on pourrait vite sortir de cette crise sanitaire. Là, voilà, les annonces du début janvier 2021 ont montré qu'on était vraiment dans la continuité, dans la lignée. Et du coup, on n'est plus dans une situation d'urgence, on est dans quelque chose qui s'installe. Et donc voilà, pour moi, ça a été le déclic d'écrire parce qu'en fait, on peut plus s'arrêter de vivre, s'arrêter de créer. En fait, on est en train de tuer toute la vie on va dire non biologique, c'est-à-dire ce qui fait de nous des humains. Fallait pouvoir le dire à un moment donné, trouver des mots. J'ai mis longtemps à l'écrire, j'ai mis plusieurs semaines à trouver déjà d'où je parlerai, à qui je m'adresserai, etc. Et puis en fait après, voilà, il y a plusieurs signataires, donc j'en ai discuté aussi avec d'autres gens. Et puis même si c'est moi qui ai écrit, ça reste quand même le fruit de conversations et de dialogues avec pas mal de gens qui ont au final signé.
Ouais, c'est du collectif et justement ce qui nous manque le plus aujourd'hui. C'est de la résistance. On est ce qui nous touche au plus profond, l'humain, ce qui fait lien.
C'est ça. En fait, c'est ce que je dis aussi dans l'aide, c'est qu'on a une... Alors, il y a une crise, hein. C'est avec un virus et des morts, etc. Donc, il ne s'agit pas du tout de nier ça.
Oui, tu n'es pas dans le déni, pas du tout.
Voilà, non. C'est en fait, après, qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est l'histoire de ne plus être dans l'urgence. On a bien compris que ce virus s'installait. Mmh. En fait, tout l'arrêt et toutes les décisions qui ont été prises, toutes les privations de liberté, etc., qui ont été plus ou moins acceptées au début parce qu'on se disait que, fallait passer par là. le fait que ça s'installe, c'est aussi un, c'est le terme que j'emploie aussi, c'est un ressentiment qui est général. Et en fait, toute la création, et puis au-delà, bien au-delà de ça, les conversations autour d'une bière dans un bar, les salles de sport, les associations de théâtre, de chant, etc. Tout. Il ne s'agit pas de juste de parler de nous, les professionnels de la culture, mais
tout ce qui est ciment aussi.
Voilà, c'est ça. Tout ce qui fait de nous des humains, effectivement, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'humanité. Tout le monde commun, ce monde commun que nous avons, il se délite et on n'a même plus la possibilité de transcender le ressentiment dans cette activité-là de culture et de création. Donc du coup, le ressentiment s'installe. Donc c'est collectif, pour moi, c'est bien au-delà des musiciens et des actrices et des acteurs de la culture. C'est avec tous les gens avec qui je parle, il y a quelque chose, il y a un malaise qui est là et qui s'installe. Et on n'a même plus la possibilité aujourd'hui de le transcender, de l'exprimer. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est que quand on accumule du ressentiment, il y a...
C'est l'aigreur qui va ça. Naître.
Exactement. La sensation que j'ai aussi, moi, c'est que par l'arrêt, en fait, de tous ces lieux de vie, on a basculé toute notre activité créatrice et culturelle, on l'a réduite, en fait, aux écrans et au divertissement. Et en fait, on a ce média de l'écran systématique qui, pour moi, fausse. Voilà, une réunion en Zoom, ça n'a rien à voir avec une réunion en chair et en os. Et du coup, cette médiatisation nous réduit, nous, voilà, parce que c'est aussi des termes que j'emploie, avec la musique, etc., on essaie de faire des communautés. Et en fait, on est réduit par les écrans à anesthésier les gens pour qu'ils puissent quand même tolérer ce qui, sans cette anesthésion, serait intolérable. Donc c'est ça qu'on refuse, quoi.
Le terme divertissement est très juste, là, pour le coup.
Alors, il en faut, hein, il en faut du divertissement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus que ça. C'est ça, le problème.
C'est le contenu, c'est important aussi. Aussi nous permettre de réfléchir et de pouvoir s'accrocher à ces réflexions aussi et à ces émotions partagées. Alors, effectivement, la lettre se termine en demandant donc la levée du couvre-feu, la réouverture des salles de spectacle, des théâtres, des cinémas, des restaurants et des bars, des universités, de tous les lieux de vie et de débat public. Et ça, c'est aussi très important de parler du débat public. Et puis également, il est demandé la levée de l'état d'urgence, de tous les décrets autoritaires, des lois et des projets de loi liberticides. Ce débat public, il est, on rebondit sur ce que tu viens de dire. Effectivement, quand on est ensemble, quand on est les uns à côté des autres, en humain, on peut débattre par l'intermédiaire d'un écran. Il y a une dimension qui manque. Et cette dimension qui manque, tu as voulu, avec d'autres, la retrouver, justement. Et tu as proposé samedi un concert sauvage à Valence.
Oui, avec suite à la lettre, avec plusieurs signataires, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait continuer, aller ancrer dans le réel, parce que la lettre, c'est très bien, c'est un premier pas, ça permet de poser les choses. Mais après, on est tous conscients qu'il faut pouvoir ancrer ça dans notre monde et dans notre réalité, dans nos villes, dans nos quartiers, etc. Donc en fait, avec certains, on s'est dit qu'on allait organiser un concert sauvage. On savait pas trop sous quelle forme, donc c'était quelque chose d'assez spontané. On s'est juste donné un rendez-vous en fait sur le Champ de Mars à Valence, samedi après-midi à 15h30. Moi, j'ai fait on était quelques-uns je savais qu'il y aurait un noyau qui serait là, et puis après, par contre, j'ai fait passer l'information de façon un peu plus large à des groupes de musiciens sur WhatsApp et sur Facebook, et puis du coup, en disant, voilà, le rendez-vous est là, ceux qui veulent viennent. Donc, sans trop savoir ce qui en résulterait, j'ai fait aussi passer l'info un peu à des gens qui sont pas musiciens, mais je savais qu'ils soutiendraient la démarche. Et du coup, on était un noyau d'une vingtaine de personnes, je pense, 20-25, à être là pendant entre 15h30 et 17h. Et puis, musiciens et non-musiciens. Et puis après, il y avait du coup plein de passants qui se sont arrêtés. Donc l'idée, c'était déjà entre musiciens de se retrouver, parce que quand même, le cœur de notre métier, c'est quand même de jouer ensemble. Et puis après, une fois qu'on joue ensemble, c'est de proposer ce jeu et cette communion à un public. Donc l'idée, c'était de se réapproprier l'espace public. Dans la lettre, on dit que on veut ce débat et cette communion. Donc on a pris ce droit, en fait, voilà, de façon, alors sans, on a respecté un peu les conditions sanitaires et tout ça pour pas non plus être en porte-à-faux par rapport à la loi au niveau sanitaire, et puis pour pas non plus faire peur aux gens, et voilà, on était en plein air, c'était très calme, on était espacés, etc. En fait, on a improvisé pendant une heure et demie, on était plusieurs musiciens, certains multi-instrumentistes, etc. Donc on a tourné, il y avait Vincent Magrini, qui est un artiste qui fait de la folk et puis de la chanson traditionnelle, Madame Berthe, qui est un rappeur qui est assez marquant dans le coin. Il y avait Praxis, un autre rappeur, il y avait Eric Aliana, qui est un chanteur, il y avait Fabien Sanchez, qui est un guitariste, et puis moi-même, donc Isaac, voilà, donc on a improvisé, on a chanté ensemble, fait de la musique, partagé un peu ce qui est notre métier et ce qui est notre passion, et en fait, ça faisait très longtemps que ça ne nous était plus arrivé, et puis on s'est rendu compte que c'était quand même vraiment important.
Cette lettre, je reviens au courrier, est-ce que tu l'as envoyée du coup au gouvernement ?
Oui, je l'ai. Alors il y a un formulaire sur le site de l'Élysée, donc voilà, j'ai utilisé le formulaire. Il y a, pour la petite anecdote, on ne peut pas écrire plus de 8000 caractères, donc j'ai renié le nombre de signataires en disant que j'en ai enlevé 30, donc en disant qu'il manquait 30 signataires, qu'on était 80 en tout. Je l'ai envoyé, j'ai pas eu de réponse pour l'instant.
J'allais dire, voilà, il n'y a eu aucune réponse.
Non. Donc du coup, c'est aussi permettre à la vie locale artistique qui est en train de se transformer, je pense, là. Ça permet à cette vie locale de pouvoir avoir une visibilité.
J'ai l'impression que ça crée des liens entre vous aussi.
Ah oui, ça c'est sûr. Ouais.
Des liens
qui
n'existaient pas pour différentes raisons, parce que chacun sa chapelle. Et que du coup, là, il y a vraiment une communauté artistique qui naît.
Oui, et puis ça aura des répercussions pendant longtemps. Je pense. Là, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, j'ai un studio d'enregistrement, donc je suis ingénieur du son, et en décembre, pendant le confinement, les activités de studio étaient autorisées. On avait le droit d'enregistrer, de répéter, tout ça. Donc en fait, j'ai tous les jeudis après-midi, j'ai ouvert le studio aux musiciens de Valence là, et on a discuté, puis fait jouer ensemble. En fait, juste fait ce qu'on appelle des jams. Bah de ces jams, il y a plusieurs musiciens qui ne connaissaient pas, qui se sont rencontrés. Et puis là, je sais qu'il y a des collaborations qui sont en train de se faire sur certains disques, sur certains enregistrements et tout ça. On s'ouvre aussi un peu à l'univers des autres, et puis forcément, bah, y a des choses qui nous sautent aux yeux, qu'on n'avait pas remarquées. On se dit, ah mais purée, c'est super intéressant. Ça permet de créer des liens qui n'étaient pas là avant, et c'est sûr.
Merci beaucoup Isaac d'avoir passé ce temps avec nous. Bravo pour ton initiative.
Merci à vous pour l'écho et puis pour cette interview. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres initiatives et puis d'autres événements dans les jours et dans les semaines prochaines.
À n'en pas douter qu'on se retrouvera.
Oui. Alors, on continue les infos locales. Jardine en vie réouvre demain, sachez-le. Donc, ce sont, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, des artisans semenciers qui proposent une large gamme de la graine à l'assiette. Leurs productions sont issues de variétés paysannes pour plus de goût, de qualité nutritive et d'autonomie. Et voilà, ils cultivent leurs plantes sans les asservir ni polluer l'environnement. Donc, si vous voulez les retrouver, vous pouvez aller donc au 429 route des Chaux à Bourg-lès-Valence dès demain 10h. Les légumes d'hiver, produits d'épicerie et semences sont prêtes à vous accueillir. Et puis vous pouvez toujours aussi passer commande de semences, de plants et pommes de terre via leur site internet jardinenvie.com et venir chercher le tout en boutique aux horaires d'ouverture, c'est-à-dire le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h et le jeudi de 15h à 20h. Et sinon, sachez aussi que l'expo Évasion Mouvement en ville se prolonge. On en avait parlé déjà plusieurs fois dans la locale. Donc c'est une exposition qui est installée depuis le 15 décembre dans les vitrines des bars et des restaurants fermés du centre-ville de Valence, avec 34 artistes dans 31 vitrines. La date de fin était initialement prévue pour le 20 janvier, mais maintenant ça n'a effectivement plus grand sens. Il a donc été annoncé de prolonger cette installation plutôt que de retrouver à nouveau des vitrines vides. Donc voilà, pour le moment, les organisateurs réfléchissent à la suite de ce projet en fonction des annonces qui vont être faites. Donc vous pouvez continuer à vous promener dans Valence et à observer ces différentes installations dans les vitrines des bars et des restaurants.
Et des vitrines, des bars au et restaurants, on plonge dans les vitrines du ciel avec René Cartonnier, président de l'association dromoise d'astronomie, les Pléiades. Bonjour René.
Oui, bonjour Sylvie, bonjour Karina, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour René.
Alors René, ben on te connaît bien sur Radio BLV. Tu assures plusieurs rôles, plusieurs chroniques, plusieurs émissions. Tu fais partie de l'équipe, mais tu as aussi donc cette casquette de président de l'association dromoise d'astronomie Les Pléiades et qui est vraiment une grande passion. Les Pléiades, comment ça se passe en ces temps incertains, on va dire, au mieux incertains et au pire de confinement? Comment l'association vit-elle depuis un an?
Alors, bien sûr, très au ralenti. Hein, on avait recommencé nos activités fin septembre, début octobre, et juste avant le deuxième confinement, hein, donc qui a complètement stoppé l'activité. Et ensuite, le couvre-feu obligeant, l'activité n'a toujours pas pu reprendre puisque nos réunions se font tous les mardis à 20h30. Donc voilà, on n'est plus dans la plage horaire. Heureusement, on a une petite dérogation qui nous permet d'utiliser le terrain pour observer, pour faire nos observations. Mais le nombre de participants est limité à 4 personnes, quoi.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est plus que ralenti, bien sûr, et ça continue, bien sûr. Heureusement, je dirais que pour les astronomes, souvent ils peuvent être aussi relativement autonomes. En fait, le plaisir, c'est de partager, et donc on aime se regrouper pour observer. Mais chacun de son côté, s'il est correctement équipé, peut faire ses observations de chez lui si c'est possible, ou à proximité de chez lui dans la nature si c'est possible aussi. Donc nous, c'est ce que on a pu faire, donc pas ce lundi-là, mais le lundi précédent, on a pu se réunir pour le coup, on était 3 observateurs, et on a pu passer une nuit sous le ciel étoilé, au club d'astronomie.
Alors c'est vrai que c'est extraordinaire parce que tu nous as raconté ça, c'était une des nuits les plus froides, je crois, qu'on ait eues.
Ah, voilà, alors, bien sûr, l'observation. Alors déjà, dans ceux qui observent la nuit, on peut dire, enfin, en schématisant beaucoup, mais je ne vais pas trop développer là-dessus, il y a deux types d'observateurs. Il y a l'observateur qui regarde le ciel et l'observateur qui photographie le ciel. Et c'est deux techniques complètement différentes, puisque l'observateur qui regarde le ciel le regarde à travers un oculaire, alors que celui qui photographie le ciel regarde le ciel à travers un ordinateur. Hein, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui font de la photo sont équipés de manière vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'on met au bout de l'appareil, du télescope ou de la lunette, au lieu de mettre l'œil, on met un appareil photo ou une caméra qu'on relie à un ordinateur, et tout ça marche sur des batteries. Hein, voilà.
D'accord.
Et donc il faut être très très précis dans l'installation de l'instrument, parce que le moindre écart fait qu'en photographie, on n'arrive pas à photographier ce qu'on a envie. Et chez nous, là, il y a quelques astronomes amateurs qui sont vraiment férus de photographie. Il y en a peut-être une petite dizaine hein, sur les 50 adhérents que nous sommes, mais qui font des photos vraiment absolument formidables. Et il y en a qui sont vraiment très très équipés puisqu'ils ont une, par exemple une coupole chez eux, etc. etc. Et ils adorent ensuite, parce que c'est le but aussi, c'est de montrer le résultat de leur photographie. Et vraiment, quelquefois, c'est même souvent, c'est des photographies qui déjà peuvent couper le souffle de celui qui les regarde. Hein, parce que vraiment, c'est des objets qu'on ne voit pas à l'œil nu, en général, et que eux arrivent à fixer sur l'écran d'ordinateur, après, avec des traitements d'images, etc. etc. Hein. Donc, c'est toute une technique à savoir, mais qui est donc fait aussi l'objet d'une formation au Club des Pléiades.
Hein, d'accord, vous proposez aussi, effectivement, la formation. Alors, voilà. Juste pour revenir sur cette sortie, parce que je trouve vraiment l'idée jolie d'imaginer tous les trois, donc bien habillés, parce qu'encore une fois, je crois que c'était vraiment une des nuits les plus froides, forcément, parce que le ciel est dégagé, donc il fait froid, mais le ciel était absolument fabuleux. Et donc, vous avez passé, alors pour certains, la nuit blanche, et puis pour d'autres, ben, vous aviez prévu de pouvoir vous reposer dans le local. Voilà, c'est à la dure. Hein.
Voilà, c'est ça. Alors, normalement, donc 4, justement, c'est parce qu'on a 4 pièces qui peuvent accueillir quelqu'un qui veut dormir, sachant que certains des membres du club ont même un véhicule aménagé, hein. Carrément. Ils ont le lit, le matériel dans le véhicule et le lit, et même quelquefois quoi faire la cuisine, et quelquefois même un petit frigo. Hein. Donc voilà.
Ceci étant, quand on veut tenir la nuit, il vaut mieux effectivement avoir de quoi manger.
Voilà, et puis quelquefois, ils s'en vont plusieurs jours aussi. Hein. Donc voilà, donc il y a des regroupements comme à Val-de-Rome où ils partent une semaine, par exemple. Hein. Voilà, donc... Alors, là, pour cette soirée-là, donc on est arrivé à 16h au club, hein, parce que en fait, il faut installer les instruments de jour. La nuit, c'est très difficile. Hein, donc, on fait déjà le montage de l'instrument, on fait un pré-réglage, et ensuite, on attend que la nuit tombe pour pouvoir viser la polaire, l'étoile polaire, qui est en fait notre clé de voûte. Hein, voilà. Une fois qu'on a bien l'étoile polaire dans le viseur, dans l'oculaire ou pour eux sur l'écran d'ordinateur, dans les instruments de visée, on peut, et que les paramètres sont bien déterminés, là on peut lancer des observations et des photos. Donc à 18h on fait ce dernier réglage et ensuite voilà on scrute la voûte céleste. Alors bien sûr, ça se prépare un peu, c'est-à-dire que bien souvent, dans la journée, on a regardé les constellations, à quel moment elles étaient. Le mieux, c'est de regarder vers le sud, parce que le sud, c'est là où le ciel est le plus vaste à regarder. La meilleure position, c'est il faut regarder vers le sud. Hein. Et donc, on regarde à quelle heure. Par exemple à 20h, quelle est la constellation qui passe au sud? Et donc, dans cette constellation, qu'est-ce qu'il y a à voir? Voilà. Donc, on a déjà ça dans la tête, on a déjà le programme de ce que, entre guillemets, le programme de ce qu'on veut observer, et on dit, bon, allez, maintenant ça, je vais faire telle galaxie, telle nébuleuse, voilà, je vais regarder Mars, voilà, je vais...
C'est le programme du cinéma permanent, là.
Voilà. Et donc, ceux qui font de la photo, ben, ils sont obligés de faire des pauses de quelques secondes, mais qui se répètent, hein, et donc ça dure plusieurs 20, ça fait 20 minutes, quelquefois une heure de pause, hein, et donc pendant ce temps-là, ils regardent si leur appareil est toujours bien positionné, et puis ils viennent donner un coup d'œil dans celui qui ne fait pas de photo, dans l'appareil de celui qui ne fait pas de photo, et qui regarde à l'oculaire, comme ça.
D'accord. Ça permet d'avoir...
Chacun, et celui qui fait de la photo, qui ne fait pas de photo, va voir aussi l'acquisition des images, voilà. Il y a aussi, bien sûr, la convivialité aussi. On se raconte des petites histoires, et puis au bout d'un moment, on a quand même un peu froid, bien qu'on soit très très bien couvert, et ça c'est essentiel, parce que si on n'est pas bien couvert...
On n'est pas confortable.
C'est-à-dire qu'on ne passe pas la nuit, hein, ça c'est clair. Hein, voilà. Ou alors on est malade. Ensuite, c'est pas le but. Et donc, on se couvre bien. Et puis, à un moment donné, ben, on va manger, on va se réchauffer un peu, on ressort. Voilà. Quelquefois, il faut attendre un passage de nuages, comme ça nous est arrivé. Il y a un moment donné, on a vu un passage, une masse de nuageuses arriver. On a dit, oh là là, c'est foutu. Mais non, et ça a duré une heure et demie, et ensuite le ciel est redevenu clair, et alors là, on est reparti. Voilà.
Formidable. René, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone ou vous joindre?
Oui,
parce
bien sûr.
Que bah, toute cette belle aventure voilà,
alors,
pour arriver des gens.
Nous avons bien sûr un téléphone au club, avec un répondeur qui est automatique. Bien sûr, en ce moment, on n'a pas trop. L'occasion d'y aller, donc on consulte les messages beaucoup plus rarement. Donc c'est le 04 75 59 55 25, mais il y a aussi je dois indiquer que nous avons un blog, donc drome-6-astronomie-les-pléiades, donc overblog. Et là, souvent, on a des messages de gens qui nous demandent des renseignements sur le comment on veut rejoindre le club, ou observer, souvent de l'aide, de l'assistance pour manipuler un appareil, si c'est pas si c'est possible de le faire par mail, bien sûr.
D'accord. Donc voilà. N'hésitez pas à prendre contact, effectivement, à prendre contact avec les Pléiades. Pour participer, pour apprendre, même si pour l'instant c'est un petit peu on est un peu en stand-by.
Voilà, tout à fait. Alors normalement il y avait le 12 ou 13 février une nuit des étoiles qui devait être organisée. Normalement il y en a une qui se passe l'été,
bien sûr.
Début août. Et là, comme ça avait été tronqué, les associations qui gèrent ces nuits des étoiles ont essayé d'en faire une pour le 12-13 février, mais
c'est en stand-by et si toutefois ça se fait, on vous tiendra informé.
Voilà.
Merci beaucoup René d'avoir été avec nous et puis à très bientôt.
À très bientôt.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, ce joli voyage en étoile. On termine avec la bonne nouvelle du jour, l'incroyable mobilisation autour de Laïfodé Traoré, jeune immigrant de Guinée en apprentissage dans une boulangerie de Besançon et menacé d'expulsion à pays. En effet, la préfecture de Haute-Saône a abrogé l'obligation de quitter le territoire français du jeune apprenti. Alors rappelons que Stéphane Ravaclet, le patron de la boulangerie byzantine qui accueille l'ail, s'était mis en grève de la faim pour soutenir son apprenti. Ce héros ordinaire a tenu 10 jours sans manger. Après 8 jours, il avait été admis quelques heures aux urgences de l'hôpital de Besançon après un malaise. C'était une vraie grève de la faim.
Wow.
C'est pas simplement pour faire du buzz. Une pétition en ligne avait rassemblé près de 250 000 signatures de soutien au jeune homme et au combat du boulanger. Tout est bien qui finit bien. Donc, Laïfodé Traoré pourra rester en France, continuer son apprentissage et gageons qu'on va se bousculer dans cette boulangerie. Eh bien voilà, nous voilà au terme de cette locale du mardi 26 janvier. Vous pouvez réécouter la locale, la rediffusion se fait à 19h. À 18h, ça sera à 17h, vous retrouvez la rediffusion de l'invité de 11h et quelques que vous avez pu entendre tout à l'heure. On se retrouve demain matin on retrouve Karina à 11h avec...
Absolument, on parlera nucléaire demain matin à 11h dans la radio. Dans le pédalo, le magazine Environnement de Radio
Parfait.
BLV.
Et ensuite à 12h15 pour la locale. Merci Anna.
Merci.
Merci Karina.
Avec plaisir. Bonne
à
journée
demain.
À tout le monde.
Au revoir.